Alors l'épiphanie, c'est donc la manifestation à toutes les nations. C'est ce que disait la première lecture, le livre d'Isaïe, la deuxième lecture. Ce n'est pas simplement les bergers, pas simplement les juifs, mais aussi des gens très lointains. Voilà, ce qui veut dire que l'évangile peut combler le cœur de tout homme. C'est ça en creux. Parfois on se dit, mais telle personne, bon, c'est trop compliqué pour qu'il reçoive l'évangile, pour qu'il entende la parole de Dieu, c'est pas la peine que je lui parle. Eh bien, le but de cette fête de l'Épiphanie, c'est de dire non, tout homme est fait pour le Christ. Bon, alors ça, c'est l'aspect traditionnel de la fête des mages. Malheureusement, j'ai envie de dire que nous avons la moitié de l'histoire, dans le sens que la liturgie s'arrête au verset 12, et ensuite il y a le verset 13 et suivant, où le point culminant du texte, c'est pas tellement que les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin, c'est plutôt que Hérode, eh bien, est parti par un autre chemin. Il n'a pas tellement été adoré, Hérode, l'enfant Jésus. Il n'a pas du tout été adoré, d'ailleurs. Il a été massacré des enfants. Donc, quand je faisais du caté, je n'en fais plus, mais j'étais toujours un petit peu gêné par cette histoire, puisque quand vous prenez le chapitre 2 de Saint Matthieu chez vous, vous regardez et vous avez vraiment deux volets très équilibrés pour nous dire que quand Jésus vient, eh bien, Hérode massacre des enfants. Comment se fait-il que la naissance d'un innocent, du Saint de Dieu, entraîne le massacre de tant d'enfants? Alors, Hérode est effrayé, il prend peur, parce qu'il y a deux rois. En fait, il n'a pas tellement compris, Hérode, que quand le Christ vient, c'est pour qu'il soit davantage roi. La royauté du Christ, Dieu n'est pas un concurrent de notre bonheur, de notre royauté. Nous sommes tous prêtres, prophètes et rois par notre baptême, c'est-à-dire que nous avons la grâce, le devoir, la mission de régner dans le monde, de ramener toutes choses vers son Créateur. Et quand j'accueille le Christ, le véritable roi, eh bien je suis plus capable de régner, de gouverner les choses. Et pour Hérode, c'est l'inverse. S'il y a le Christ, s'il y a un Messie, eh bien, je dois partir alors qu'il pouvait rester. Voyez, quand Saint Matthieu, eh bien, met cet épisode de l'adoration des mages et le massacre des innocents, qu'on n'a pas dans la liturgie le dimanche, qu'on a le 26 décembre, au lendemain de Noël, quand il nous met les deux ensemble, c'est pour nous dire qu'il y a un scandale. Et j'ai envie de dire, c'est tellement scandaleux que ça ne peut être que vrai. Vous ne mettez pas au début de l'évangile l'événement du massacre des innocents avec juste avant cette parole « Un sauveur vous est né, un fils nous est donné ». Qu'est-ce que c'est que ce sauveur qui fait que mon enfant va mourir? Et c'est tellement scandaleux que ça ne peut être que vrai. On ne commence pas une histoire comme ça. Et c'est même plus scandaleux puisque on nous dit que Joseph est averti en songe qu'il doit partir en Égypte pour protéger l'enfant. Mais pourquoi Dieu et l'ange ne s'est pas manifesté aux autres parents? Pourquoi il s'est manifesté à un seul papa et pourquoi pas aux autres papas pour protéger leurs enfants? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui sélectionne les personnes pour avertir? Voilà, c'est très curieux comme quoi ce premier témoignage, le témoignage des saints innocents, est en même temps la première objection pour croire. Comment croire un Dieu qui délivre le monde alors que mon enfant est mort à cause de lui? Nous entrons dès le début de l'évangile dans le mystère de la souffrance injuste, inexpliquée, un petit peu à la manière de Job. Il me semble que ça peut être parlant pour nous. D'abord, en ce moment où nous vivons quelque chose de difficile dans l'Église, puisque nous n'avons jamais eu autant de chrétiens persécutés, Je lisais cela dans un journal où on nous disait depuis 2005 qu'il y a eu 300% de hausse d'actes terroristes antichrétiens. Il faut savoir qu'à travers le monde, 80% des actes de persécution s'exercent contre des chrétiens. Alors bien sûr, il y a les pays de l'Orient, mais aussi des tas de pays, hein, notamment d'Asie. Je lisais qu'en Corée du Nord, il y a entre 50 000 et 100 000 chrétiens qui sont dans des camps de rééducation. Donc nous sommes dans un monde où être chrétien, ça peut vouloir dire être persécuté. Le pape Jean-Paul II disait qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui disait, à travers son baptême, j'accepte la sainteté comme l'état normal. Aujourd'hui, un chrétien, c'est quelqu'un qui accepte d'être un saint, bien sûr, mais aussi quelqu'un qui accepte d'être persécuté. Aujourd'hui, peut-être qu'on n'est pas persécuté dans notre pays. En même temps, même dans une école catholique, c'est dur d'être chrétien. Vous voyez, il y a une non-compréhension de la laïcité qui fait qu'on pense qu'être laïque, c'est être neutre. C'est pas ça la définition de la laïcité. Être laïque, c'est permettre à chacun de vivre ce qu'il a à vivre, à condition que ce qu'il vit ne gêne pas l'ensemble. Mais aujourd'hui, on voit bien que des chrétiens, même en classe catholique, ils vont pas à la messe du collège parce qu'ils ont peur de montrer qu'ils sont chrétiens. Voilà, nous sommes dans ce milieu, nous avons honte de parler de Jésus, il faut en prendre conscience. Alors pour nous, peut-être, voyez, cette coexistence entre la croix et la joie, entre la lumière et les ténèbres, c'est peut-être pour nous dire que c'est pas parce que le Christ vient qu'il faut penser que toutes nos nuits vont disparaître. Souvent on se dit, mais Seigneur, tu es dans ma vie, donc normalement ça y est, le bonheur est là, je suis libre, je ne dois plus souffrir. En fait, on nous dit au début de l'évangile que les deux peuvent aller ensemble. Les deux peuvent aller ensemble. Vous voyez, comme si je pense à des tas de souffrances. On en a chacune dans notre vie, mais même dans l'Église. L'Église est un lieu de scandale. Vous avez de nombreux scandales dans l'Église. Vous prenez les persécutions, j'en ai parlé, mais vous prenez aussi tel ou tel décès qui arrive trop tôt, telle ou telle maladie, telle ou telle épreuve. Eh bien, j'apprends au début de l'Évangile que les deux peuvent aller ensemble. Bien sûr, quand j'ai lu tout l'Évangile, je sais qu'à la fin, eh bien, il y en a un seul qui meurt pour rassembler toutes les tribus, pour rassembler tous les peuples. Bien sûr, il y en a un seul qui meurt pour sauver l'ensemble, mais ça je veux bien, mais ça c'est de la théologie de salon. Aujourd'hui, je sais que le Christ en venant, eh bien, c'est aussi la mort qui vient avec lui, et j'apprends à vivre les deux réalités ensemble. Le pape Benoît XVI, et je termine par ça, disait, en fait, une société qui n'intègre pas la souffrance est une société meurtrière. Quand vous intégrez pas, voyez, la difficulté, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas adulte, quand je ne suis pas adulte, eh bien, je deviens meurtrier. Alors, c'est de manière très flagrante avec ce qu'on appelle l'avortement, l'euthanasie. L'avortement, c'est quoi ? Cet enfant, il arrive trop tôt. Cet enfant, il a tel ou tel handicap. Cet enfant, il me gêne. Et du coup, parce que c'est une souffrance, et c'est vrai que c'est une souffrance, eh bien, je vais le faire mourir. Je n'intègre pas le mal, alors je fais mourir. La personne âgée, c'est la même chose. Parce qu'elle coûte trop cher, parce que apparemment, elle me devient insupportable, elle révèle en moi mon incapacité à aimer, alors je veux la faire mourir. Vous voyez, et alors pour des petites souffrances, c'est pareil. Parce que je n'intègre pas la limite de l'autre, alors je vais critiquer, je vais dire du mal de lui. À chaque fois, on peut dire que, en fait, une souffrance qui n'est pas intégrée, en fait, implique une nouvelle souffrance. Le pardon, c'est ça, le pardon, c'est dire, tiens, tu m'as fait du mal, mais je vais arrêter cette violence. Et c'est ce que fait le Christ en mourant sur la croix. Il arrête la violence. Il dit stop en ouvrant les bras. au lieu d'amplifier cette souffrance, parce qu'une souffrance non acceptée devient toujours une souffrance amplifiée. Voilà, alors peut-être demandons au Seigneur ces deux choses, la grâce de comprendre que le Christ est là pour tout homme. Voilà, il est fait pour tout homme. Et j'ai envie de dire, c'est notre espérance. Parfois on se dit, mais comment les gens vont découvrir le Christ puisqu'ils se mettent dans telle ou telle impasse? Ne t'inquiète pas. À un moment donné, ils vont découvrir que c'est une impasse. Et ils vont se tourner vers le Dieu vivant. Parce que leur cœur désire ça. Nous demandons cette grâce d'espérance par rapport, voilà, à ceux qui n'ont pas la foi et par rapport à ceux qui sont persécutés. Et essayer de comprendre que ce mystère de croix, bien sûr qu'il doit être, on doit se battre pour que la persécution s'arrête. Et en même temps, il y a un mystère de fécondité mystérieux où la vie est normalement plus forte que la mort. Amen.